franceinter.fr.
15,7% des Français souffrent d'obésité, un chiffre légèrement en dessous de la moyenne de l'Union européenne et qui semble se stabiliser au fur et à mesure des études. Voici aujourd'hui les premiers résultats de la cohorte Constance. 102 000 volontaires tirés au hasard et qui ont accepté de livrer donc aux chercheurs leurs précieuses données de santé. Sébastien Tchernikov, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service nutrition à l'hôpital Georges Pompidou, professeur à l'Université Paris-Descartes et co-auteur donc de ces travaux. Alors, les nouveaux chiffres sur la prévalence de l'obésité en France, 15,8% pour les femmes, 15,6% pour les hommes. Comment ces chiffres évoluent dans le temps pour bien comprendre ce qu'ils disent aujourd'hui de notre époque?
Alors, ces chiffres sur la cohorte Constance qui est dirigée par le docteur Marizens montrent qu'on a des valeurs plutôt attendues par rapport à des études qui ont été menées antérieurement, par exemple l'étude OBPI à laquelle on fait souvent référence, même si les méthodologies d'enquête, on y reviendra sûrement, sont très différentes et rendent bien sûr les comparaisons délicates.
Mmh. C'était il y a 4 ans, alors depuis 4 ans, les chiffres ont peu évolué, hein, c'est ça?
Alors, on a des chiffres qui sont assez similaires avec ce qui avait été retrouvé il y a 4 ans. Mmh. Les particularités de la cohorte Constance, en tout cas des données d'inclusion de la cohorte Constance, sont qu'on a des protocoles très standardisés pour mesurer les sujets. Dans les données existantes antérieures, on avait des données qui étaient plutôt déclaratives. Et on sait qu'entre la déclaration et la mesure réelle, il y a souvent un décalage. Donc l'interprétation des données est assez complexe, mais on est en tout cas sur des chiffres assez proches.
On peut peut-être s'y essayer à les interpréter. L'étude précédente dont vous parlez, OBPI Roche, était sur une cohorte plus jeune et vous publiez là des résultats qui montrent que l'obésité augmente avec l'âge. Donc si les chiffres sont les mêmes et si vous suivez mon raisonnement, on aurait tendance à dire que l'obésité baisse ou au moins qu'elle stagne.
Alors OBPI était une étude, si on rentre dans la technique, l'étude OBPI était une étude transversale, donc c'était une pure photographie de l'état de santé de la population. On a ici les données d'inclusion d'une cohorte. La grosse différence, c'est qu'on va suivre ces 200 000 personnes qui vont au final être incluses dans la cohorte Constance pendant une dizaine d'années.
Donc on ne dit pas grand-chose à part que c'est 15% que vous trouvez?
On trouve des valeurs proches, mais c'est un petit peu tôt pour comparer.
Comment sont sélectionnés ces volontaires tirés au hasard là, qui font partie de la cohorte Constance?
Alors, cette étude, elle est coordonnée par l'INSERM et l'assurance maladie, ce qui veut dire qu'on a une coopération entre les deux structures qui permettent de tirer au sort des personnes qui sont affiliées au régime général de la sécurité sociale. On les tire au sort, soit les personnes acceptent et sont incluses dans l'étude, soit elles refusent. Et à ce moment-là, on a des techniques statistiques pour réinviter des personnes supplémentaires.
Il y a un autre chiffre qu'on lit dans la presse depuis ce matin et beaucoup, c'est qu'un Français sur deux est en excès de poids. Qu'est-ce que ça veut dire être en excès de poids?
En excès de poids, en fait, c'est un terme du langage courant qui va en fait faire référence au surpoids qui est au-dessus d'un indice de masse corporelle de 25 kg par mètre carré et une obésité au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc cet excès de poids du langage courant combine ces deux termes médicaux finalement.
Est-ce que ça veut dire être... on peut avoir des problèmes de santé quand on est en excès de poids ou c'est pas comme ça qu'il faut le voir? Enfin, ce chiffre de 1 sur 2, est-ce que c'est associé à des problèmes de santé?
On sait qu'il y a une relation... un continuum entre le poids et plein de facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple la pression artérielle. Plus vous augmentez votre poids, plus la pression artérielle en moyenne va augmenter. Vous savez que les médecins aiment bien avoir des seuils, et donc on va fixer un seuil d'obésité pour dire, au-delà de ce seuil, le risque d'hypertension ou de diabète, par exemple, va être plus élevé.
Alors, dans cette étude, il y a un lien entre les problèmes de poids et le niveau de vie. Donc, vous avez étudié également les critères sociaux des personnes qui vous répondaient. Alors, ce qui est assez étrange, c'est la prévalence homme-femme qui s'inverse. Quand on est très riche, on a plus de chances d'être obèse que si on est un homme, alors que pour une femme, c'est l'inverse. Comment est-ce que vous l'expliquez exactement?
Alors, dans l'étude Constance, plus on est riche, moins on est obèse, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Par contre, il y a des petites différences à quelques pourcentages près, mais on retrouve cette relation connue dans le monde entier sur le lien entre la fréquence de l'obésité et le niveau de revenu.
Ce que vous voulez dire, Mathieu, c'est que c'est très drôle quand on voit les chiffres. C'est quand on est très riche, c'est l'homme qui a plus de chances d'être obèse. Et quand on est très pauvre, c'est la femme qui a plus de chances d'être obèse. Et c'est flagrant dans les chiffres, c'est des histoires de 30-40%. Vous n'avez pas forcément réfléchi à ça?
Alors, réfléchi, si. Après, interprété en 30 secondes, non. Par contre, ce qu'on peut donner comme élément d'explication, c'est que ensuite ces données, elles vont devoir être réinterprétées dans le contexte aussi familial de ces personnes. Est-ce qu'elles sont en couple? Est-ce qu'elles ont des enfants? Et donc, resituer ça aussi dans le cadre de vie, ce que va permettre la cohorte Constance, puisqu'on a une foule d'informations qui sont collectées dans les questionnaires à l'inclusion.
Donc, les disparités régionales, elles sont réelles aussi sur le territoire ?
Les disparités régionales, elles sont marquées, un peu moins marquées qu'il y a quelques années, mais ça, c'est aussi cohérent avec ce qu'on retrouvait dans l'étude OBEPI, par exemple.
Il y a une chose intéressante dans l'étude, c'est que vous déterminez la part des Français en obésité métaboliquement saine. J'ai découvert ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Obésité métaboliquement saine, ça veut dire quoi alors ?
Voilà, alors les Québécois disent les obèses en santé, ce qui est un terme assez mignon aussi. Le principe, en fait, c'est de s'apercevoir que l'obésité, quand on la définit avec un critère assez simple ou simpliste comme l'indice de masse corporelle, en fait, c'est une maladie chronique qui est très hétérogène et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes en situation d'obésité qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire, pas de diabète, pas d'hypertension. Et c'est ce qui va les caractériser, ils sont métaboliquement sains.
Ils sont nombreux ?
Alors, on considère dans cette étude, en tout cas, qu'on avait autour de 25% des hommes et 50% des femmes.
Ouais.
La grande question, qui est une question de recherche, c'est une problématique de recherche médicale, c'est de savoir si cette situation où on n'a pas de facteur associé à l'obésité va être pérenne au cours du temps, ou est-ce que c'est juste à un moment où on enregistre les données, et finalement, 2-3 ans après, les personnes vont développer un diabète. Donc c'est une situation, on va dire, une problématique de recherche qui nous intéresse beaucoup en ce moment.
Dernière question, Axel.
Oui, une question pas très agréable, mais j'ai découvert ça à la fin de l'étude. Vous avez été conférencier pour deux labos, Lily et Servier, cofondateur de My Good Life, qui est un site qui se propose de récolter des données de santé personnalisées. Est-ce que vous ne pensez pas que ces trois points-là peuvent vous influencer dans la publication de statistiques qui sont faire parler des données, surtout ?
Alors, c'est pour moi exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous oblige à déclarer nos conflits d'intérêts et qui enregistre sur un site qui s'appelle le site Transparence. Et donc, je déclare mes conflits d'intérêts et je laisse les lecteurs juger de la pertinence ou non de ces conflits.
Merci beaucoup, Sébastien Tchernikov, à l'occasion donc de l'apparition de cette étude. Axel, à demain.
À demain, Mathieu. Non, demain, je me fais remplacer.
Ah oui, c'est vrai, Agnès Fèvre.
À la semaine prochaine.
Une nouvelle voix, ce sera à la Une de la Science. Vous verrez demain. Merci beaucoup. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les petits mensonges mènent au plus gros. Une étude originale faite par des chercheurs anglais confirme qu'il existe une forme d'habituation chimique dans le cerveau des menteurs. Les mauvaises émotions associées aux mensonges, comme le regret ou la culpabilité, se traduisent par une activité particulière dans les amygdales. Et les chercheurs montrent qu'elle diminue au fur et à mesure que l'on accumule les mensonges. Les menteurs chroniques auraient donc une forme de protection émotionnelle biologique contre leur propre culpabilité. Un algorithme pour prédire les décisions de justice. Le projet est encore parfaitement expérimental, mais cette intelligence artificielle créée par des Américains était capable de prédire avec succès plus de 79% des jugements rendus par la Cour européenne des droits de l'homme en se basant sur la jurisprudence et des cas du passé. Un taux très élevé qui a surpris les chercheurs eux-mêmes, leur faisant dire que les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l'homme se basaient principalement sur des arguments non juridiques. Et puis une tempête se prépare à la surface de Titan, la grosse lune glacée de Saturne. C'est la sonde Cassini qui nous apporte la nouvelle avec une image impressionnante. Elle montre un vortex laiteux, une forme de grosse bosse faite de vent de méthane et qui annonce le début de l'hiver. C'est la première fois que le changement de saison apparaît de manière si précise et si visible sur cette lune de la même taille que la planète Mercure et dont l'atmosphère est composée à plus de 98% de diazote. Le cliché est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.